La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce qui va être le 150e numéro de la mêlée de l'info. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale. Toujours trois invités pour débattre au cours de cette émission. Je salue Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie et membre du parti Les Républicains. Et je salue aussi Patrick Coste, ex-cadre de l'éducation nationale, ancien proviseur de lycée, chroniqueur sur Radio Présence, et Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse, représentant du think tank Politique Café. Bienvenue à vous trois aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. L'actualité est hélas une fois de plus très sombre et même tragique. Hier soir à Bordeaux, une nouvelle agression au couteau a fait un mort et un blessé grave. Et auparavant, deux affaires récentes ont encore illustré la recrudescence des violences entre adolescents dans notre société. Violences de plus en plus extrêmes et allant parfois jusqu'à la mort des agressés. Chemseddine, âgé de 15 ans, est mort à Viry-Châtillon après avoir été passé à tabac près de son collège. Samara, 13 ans, a été brutalement agressée, elle aussi, devant son collège à Montpellier. Dans ces affaires sordides, on pointe encore le rôle des réseaux sociaux, celui d'associations et de prêcheurs islamistes, et le défaut, voire l'absence de réaction dans les établissements scolaires lorsque des faits de harcèlement, des menaces sont rapportés à la direction ou lorsque la laïcité n'est plus respectée dans leurs locaux. Pour votre part, quelles sont les causes et les responsabilités que vous identifiez dans ce qui semble être une dérive continue et malheureusement de plus en plus meurtrière de la violence entre adolescents? Patrick Coste, je sais que l'ex-proviseur de lycée que vous êtes a son idée sur la question, ou des idées en tout cas.
Oui, donc d'abord bonsoir aux auditeurs. Ce qu'il faut observer, hein, c'est qu'il y a objectivement une recrudescence des phénomènes de violence parmi les jeunes et dans des âges qui deviennent de plus en plus presque des enfants, hein, des pré-adolescents. Donc il y a une réduction de l'âge par rapport à ces violences. Alors il y a les deux cas qui ont été cités qui font la conjoncture et qui justifient sans doute cette émission, qui est le cas de Chemseddine et de Samara. Mais on peut rappeler, et ça a été quand même un phénomène qui a impressionné tout le monde, les émeutes de juillet, où il y avait 30% des mineurs parmi les émeutiers. Un autre chiffre quand même qui est indicateur, en 2006, 60% des mineurs qui étaient jugés dans les tribunaux étaient dans la tranche des 16 à 18 ans. Aujourd'hui, les 60% qui sont jugés dans les tribunaux ont moins de 16 ans. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de réduction des âges par rapport à la violence. Alors, je crois d'abord qu'il faut dire que ces phénomènes de violence, c'est un symptôme, c'est la partie la plus vive, finalement, de l'agressivité, du rapport à autrui, par les manifestations de violence. Mais je pense que c'est un symptôme, et il y a quelque chose qui se défait sur le plan de la relation à l'autre et de la communauté, bien au-delà de ce qui se caractérise par cette violence et par les mineurs. Alors il y a des explications, on va dire, qui sont, on va dire, répandues pour expliquer ces phénomènes de violence. On parle des réseaux sociaux, de la façon des comportements qu'il peut y avoir dans la famille. Hein, on se souvient des interventions d'Armanin par rapport à la responsabilité des parents au moment des émeutes. Il y a des phénomènes de communautarisme qui jouent. Il y a la drogue installée dans les quartiers. Et puis aussi, il y a une accusation de la réponse de la justice qui peut être faite par rapport à ces problèmes de violence, qui serait insuffisante et donc qui serait la démonstration de toute façon d'une autorité de l'État qui ne serait pas là pour répondre à cette violence. Ça, ce sont les explications, on va dire, sociétales, hein, qui sont répandues. Maintenant, je crois que Il faut se dire quand même qu'à l'arrière-plan de tout ça et sur le fond, c'est un problème de rapport entre l'autorité et le phénomène de violence. C'est-à-dire qu'il y a bien un défaut d'autorité, parce que s'il y a une construction des symbolisations au niveau de la communauté, il y a des empêchements par rapport à des comportements compulsifs, parce qu'il y a des constructions symboliques qui se sont mises en place. Et donc, quand elles sont ratées, quand elles ont manqué, à ce moment-là, il y a, pour reprendre une formule freudienne, l'enfant et l'adolescent redeviennent une sorte de pervers polymorphe, compulsif, et on voit la démonstration de cette violence. Alors, mon hypothèse, au-delà des explications sociétales, qu'est-ce qui se passe comme cause du côté de cette rupture qu'il peut y avoir de l'autorité, cette crise de l'autorité, qu'est-ce qui a lieu par rapport à cela? Et là, bon, je crois que c'est un classique, hein, la question de la crise de l'autorité, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a un texte célèbre qui fait la référence de toutes les bonnes dissertations sur le sujet, qui est celui de Hannah Arendt sur la crise de l'autorité en 1952, donc un texte qui date de 75 ans. Mais je pense qu'il y a une évolution de cette crise de l'autorité. Ce n'est pas simplement la disparition des ancêtres de la tradition qui ferait la crise de l'autorité. Il y a vraiment dans la relation d'autorité, de la construction symbolique, quelque chose qui se détruit. Dans la société, on est susceptible de détruire la nature, on peut détruire également les organismes vivants par un certain nombre de phénomènes de développement, mais on peut aussi détruire des symbolisations par des agencements de société. Et ce qui est en train de se développer, c'est un peu des formules classiques, hein. Le propos peut paraître même un peu galvaudé, usé, mais on se retrouve dans une situation où tout le monde est poussé par un système économique à rechercher son maximum de plaisir. C'est une économie qui pousse à la jouissance. Lacan appelle ça le pousse à jouir sur le plan du désir. Et quand il y a ce pousse à jouir et ce pousse au plaisir, le rapport à l'autorité, à la contrainte, au détour par rapport à l'empêchement de la frustration, à ce qui peut retenir par rapport dans la relation à l'autre, est défait. Donc je vais employer un gros mot, hein, mais c'est une façon de marquer le propos. Il y a quelque chose de l'ordre de la mort symbolique du père, hein, qui n'est pas une question de genre ici, hein, qui fait qu'on est, de par ce système, ce fonctionnement du plus à jouir et de la poussée au plaisir, sur une destruction de ce rapport symbolique. Et à ce moment-là, ça ouvre la possibilité de phénomènes de violence et de relations à autrui qui deviennent compliquées.
Dans ce qui est pointé aussi dans les causes possibles, on parle beaucoup des familles monoparentales, mais ça c'est une cause parmi d'autres. Mohamed Mafri, alors je sais que vous aussi vous avez beaucoup réfléchi à la question, vous avez pas mal d'idées là-dessus. Bon, vous, quelles sont les causes que vous identifiez, éventuellement les responsabilités à la situation que nous constatons, et situation qui s'aggrave de plus en plus, semble-t-il.
Oui, bonsoir et merci de m'accueillir. D'abord, je rejoins globalement les propos que j'ai entendus tout à l'heure. Si je devais démarrer, moi je démarrerais par une partie historique. Dans les années 90, et qui symbolise un petit peu cette déchéance en termes d'autorité, de sujet et des valeurs de la République. Dans les années 90, arrive l'affaire de Creil. Cette fameuse histoire de foulard. Et on voit un principal de collège qui impose une définition de la laïcité qui est la définition généraliste et réelle, et on voit tout simplement et tristement une institution qui est l'éducation nationale et le politique aussi qui l'abandonne. À partir de là, l'histoire avance et on voit se multiplier, bien sûr, ces couacs en termes au niveau de la laïcité. Mais aussi, je rejoins aussi mon interlocuteur tout à l'heure, le lien aussi avec l'autorité, qui au fur et à mesure se disloque et devient un sujet au fur et à mesure tabou. Une fois qu'on a dit tout ça, pour poser le constat, d'abord, bon, moi, je suis élu local et je suis quand même, il y a plusieurs éléments qui me viennent en tête. Le premier, ce sont aussi d'abord les postures politiques, qui sont quand même des sujets sensibles, importants et des propos, parfois, qui peuvent aussi amener de graves conséquences. On a des mouvements politiques qui, clairement, n'assument plus le mot autorité, critiquent l'autorité. Quand on entend un racisme systémique au terme de la police, que la police tue, ce sont des propos et des vocabulaires quand même qui amènent des conséquences assez importantes. Quand on voit le corps enseignant, on ne peut pas taxer quand même de droite, les syndicats d'enseignants qui eux-mêmes alertent en disant qu'ils sont quand même très inquiets, je pense aux professeurs d'histoire notamment, qui sont très inquiets pour leur sécurité. Je répète, pour leur sécurité.
Et puis qui disent qu'ils ne peuvent plus enseigner certaines parties du programme.
Qui sont contestées.
Ce qui est un risque.
Ils sont contestés par des élèves de 11-15 ans. 11-15 ans. Il faut vraiment insister sur l'âge aussi. Voilà. Qui refusent des parties historiques qu'ils contestent. Voilà. À partir de là, c'est vrai que le mot autorité n'est plus le cœur du système. Et bien évidemment, elle est donc la partie politique où elle a sa responsabilité sur ce sujet-là. Lorsqu'on tient des propos et certains mouvements politiques n'aident pas à pacifier ces relations-là et n'aident pas non plus à avancer sur ces sujets-là, c'est un premier constat. Vous avez parlé tout à l'heure de parentalité. Oui, c'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel, moi, à mon avis, il faut approfondir. Une fois qu'on a dit la parentalité, on ne dit rien du tout. Il y a un sujet aussi important, et je vais essayer de l'argumenter, c'est pas uniquement dans les quartiers populaires, mais essentiellement quand même dans les quartiers populaires, l'absence des pères. C'est un fameux chanteur qui l'a parfaitement illustré quand il chante Papa Outé. Et lorsqu'on creuse la chanson, elle dit tout. Et un exemple assez concret, et ça va parler à tout le monde, le tissu associatif qui est très important sur ces quartiers populaires et qui est aussi représenté sur ces sujets-là par des mamans, uniquement. Le collectif des mères. À l'époque de Fava de la Mara, c'était Ni Pute Ni Soumise. Et bien d'autres associations où les pères sont absents, ou alors substitués par la notion de grand frère. Grand frère, pour moi, issu aussi d'un quartier populaire, c'est pas si flatteur que ça. Voilà. Et ce n'est pas véhiculé aussi des bonnes informations en termes d'autorité, d'éducation. Voilà. Donc la présence de l'éducation est importante aussi en lien avec la présence des parents, des deux parents. Voilà. Quel que soit le contexte aussi, parents séparés ou pas. Voilà. Ce qu'on oublie de dire aussi, ce qu'on parle souvent de mamans isolées, il y a des mamans isolées qui sont en difficulté, mais il y en a qui ne le sont pas non plus. Voilà. Dans les quartiers populaires, il y a des mamans aussi qui aussi réussissent aussi, malgré ces difficultés, à aussi pouvoir aussi véhiculer des valeurs positives. Je pense que ce sujet-là aussi, une fois qu'on a posé ce constat, il faut aussi le positiver aussi et l'avancer. Voilà un peu globalement un petit peu cette approche que je voulais développer. Un autre sujet aussi que je voulais développer, parce que vous avez parlé en introduction des deux faits divers, et je pense à la petite Samara. On a un mouvement de féminisme très important actuellement. Mais j'analyse ça avec précision, quelque chose qui me gêne beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de mouvements féministes s'alarmer de cette situation, de cette jeune demoiselle, qui est victime apparemment d'un... J'ai entendu ce propos-là indirect. Alors, c'est sur un autre sujet, sur l'affaire Shemseddine, mais on parlait de crime d'honneur. Crime d'horreur, d'ailleurs, comme disait Dupond-Moretti. Vraiment, je le rejoins totalement. On a une vision patriarcale complètement obsolète, dans un autre temps. Mais ces mouvements féministes-là qui se sont plaints de Gérard Depardieu ou d'autres sujets, et légitimement, sur ces sujets-là, dans les quartiers populaires, une impression qu'on a deux divisions. Et là aussi, alors que ces mouvements-là, on en aurait besoin, là. Et on ne les entend pas. Et c'est vrai que je m'interroge sur cette approche-là du féminisme et où ces jeunes demoiselles, notamment dans les quartiers populaires, auraient besoin de ce soutien-là, en tout cas, et elles ne l'ont pas. Voilà, elles ne l'ont pas. Donc, c'est tous ces trois axes-là, en termes, et un mouvement, une volonté politique beaucoup plus forte, qui n'est pas suffisante, pour moi, en termes d'autorité, sur la vision de la laïcité. Lorsque Gabriel Attal s'est exprimé sur la baïa, ça a été très clair, précis, il n'y a pas eu de discussion. Et je pense qu'il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Il ne faut pas derrière qu'on craigne qu'on soit traité de raciste ou d'autres propos de ce type-là. La laïcité, c'est aussi la neutralité, et c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et ce n'est pas assez répété à mon avis, au niveau peut-être local et national.
Alors concernant Jem Sénine, effectivement, il aurait été victime d'un crime d'honneur parce qu'il aurait, je suis toujours en conditionnel, échangé des mots à caractère sexuel avec une jeune musulmane. Quant à Samara, elle, ce qui lui a été reproché, c'est de s'habiller à l'européenne et donc d'être une mécréante.
Si je peux juste oui, un dernier mot, excusez-moi, sur l'affaire de Samara. Là aussi, et je crois que personne n'est dupe, tout le monde a bien vu que cette jeune maman...
La mère de Samara
qui vit un moment vraiment très violent, qui lors de sa première intervention indique clairement que sa fille était traitée de mécréante, qu'elle ne respectait pas selon ses copines, ses copines qui ont appelé quand même un appel au viol quand même, et qui le lendemain change complètement de discours. Explique que les mouvements d'extrême droite n'ont pas à s'accaparer de cette situation-là.
Sa fille est une bonne musulmane.
Tout cela symbolise aussi cette
atmosphère. Elle lit un papier, il faut bien dire.
Exactement, elle lit un papier, elle lit même son portable sur une émission de télé. Ce qui, quand même, reflète quand même cette atmosphère inquiétante, pesante, et qui, encore une fois, ce que je vous disais à l'introduction, doit être solutionné par le politique.
Alors, Sacha Briand, vous, après ces deux premières interventions, est-ce que vous avez des points d'accord avec... vos deux autres camarades, ou est-ce que vous avez aussi d'autres points à soulever, à relever ?
Il y a forcément des points de convergence dans l'analyse. D'abord, le premier point, c'est qu'effectivement, la violence est un symptôme. Mais de quoi ? La perte de l'autorité, assurément, pas seulement. La perte de l'autorité, évidemment, parce qu'on a aujourd'hui une évolution de la société depuis... 40, 50 ans et un peu plus, où il y a les cadres habituels et historiques de notre société qui se sont progressivement effondrés. Les liens familiaux avec la déruralisation de la France, hein, l'industrialisation,
et donc l'urbanisation.
Qui a cassé les solidarités familiales, qui étaient aussi des solidarités de contrôle. Les liens de la famille avec... effectivement, le phénomène des familles monoparentales qui sont aujourd'hui très prégnantes et avec, c'est vrai, souvent en plus une disparition du père, une déresponsabilisation absolue. Les institutions classiques de la République qui sont ébranlées dans leur crédibilité, que ce soit les élus nationaux, locaux... les enseignants qui étaient respectés. Moi, j'appartiens à une génération où on ne la ramenait pas hein, quand il y avait une remarque d'un prof et qu'on avait le malheur de le raconter à la maison. Ce n'était pas les parents qui allaient donner une tarte au prof. C'était les parents qui en collaient une deuxième pour que l'histoire soit bien comprise. Et pas seulement dans les classes supérieures. Hein. C'était une valeur normale. Il y a 40 ans, on n'aurait pas... contester l'intervention des forces de police. Alors après, est-ce que ça suffit à expliquer ce phénomène, effectivement, où on a le sentiment que dans les jeunes, les plus jeunes, notamment dans les banlieues, dans les quartiers politiques de la ville, comme on dit, où il y a une proportion de population immigrée extrêmement importante, est-ce qu'il y a en plus des phénomènes spécifiques qui tiendraient, et je le dis très simplement, hein, qui tiendraient à cette question de l'immigration, et est-ce qu'il y aurait un lien entre l'immigration et le manque d'autorité ou de valeur ? Je ne sais pas si c'est un lien qu'on peut faire aussi facilement. Il y a très certainement... un lien entre, assez classique, entre le phénomène migratoire, le phénomène de déclassement sur le plan social et éducatif, qui fait qu'on est en présence de populations qui ont un niveau éducatif peut-être plus faible que la moyenne, mais qui ont, c'est vrai, peut-être aussi des valeurs culturelles et de rapport à la société, de rapport à la communauté, qui sont différentes des nôtres. Force est de constater que dans la société judéo-chrétienne, la lapidation est assez rare. et l'expression qui a été évoquée tout à l'heure, l'appel au viol, on doit pouvoir le retrouver aussi dans certains milieux de bons petits Français, je n'en doute pas. Mais il est probable qu'il y ait quand même aujourd'hui, dans cette espèce de friction importante de la communauté musulmane, dans la revendication islamiste qui représente une fraction à l'intérieur de la population de confession musulmane, une émergence de la violence comme un outil de régulation, et que dans des esprits jeunes, pas encadrés, mal éduqués, où la notion de bien et de mal est une représentation totalement virtuelle, eh bien, le passage à l'acte et l'incompréhension totale des conséquences de ces actes peut justifier cette émergence de violence. Mais moi, je crois qu'il faut sortir de l'actualité. Ce phénomène-là, on a eu simultanément plusieurs phénomènes qui semblent être un écho. Mais ça fait déjà longtemps. Moi, je me souviens, dans la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, où il y avait dans certaines populations immigrées, chez certains jeunes, une montée de violence qui était absolument incroyable. Juste pour terminer, je crois qu'il faut qu'on ait la capacité à parler de ce que représente aujourd'hui la culture musulmane dans sa fraction, notamment revendicative et islamiste, parce que si on n'est pas capable d'en parler sereinement et sans prendre le risque d'être traité immédiatement de raciste, on ne sera pas capable d'essayer d'apporter des réponses. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de parler quand même de la question de la réponse à apporter.
Bien entendu, puisque à ces questions. C'est à ça qu'on va devoir arriver. Mohamed Mafri, vous vouliez réagir. Oui. Je juste rappeler une chose, c'est que le livre « Les territoires perdus de la République », c'est 2002. Donc, il y a plus de 20 ans.
Exactement, oui. Juste répondre à M. Briand. Vous avez cité les quartiers politiques de la ville. Et là aussi, pareil, je reviens encore une fois aux politiques. Avoir paupérisé toutes ces populations-là, sur un même lieu et même endroit aussi, c'est un échec. Il y a des solutions. Et on dépasse, pour moi, il faut dépasser... il y a des phénomènes de radicalisation, personne ne peut le contester. Mais par contre, il faudra dépasser aussi le sujet, uniquement centré sur la partie communauté musulmane, où moi, je pense que la mixité sociale, elle a du sens. Elle a du sens lorsque les villes, les collectivités locales, respectent je pense à la loi Besson notamment, la répartition des logements sociaux. Ça n'a pas été le cas de nombreuses années. Ou d'autres couleurs politiques aussi ont préféré avoir, et je pense aux régions parisiennes notamment, avoir trop de contingents sociaux, ce qui a amené aussi tout ce résultat-là depuis de nombreuses années. Voilà. La partie religieuse est arrivée plus tard, malheureusement, et ce cumul-là fait ce résultat-là. Mais en termes de perspective, parce qu'il va falloir quand même se poser des perspectives à long terme, il y a des dispositifs qui deviennent intéressants. Je pense à la mixité des collèges, notamment, mixité sociale des collèges, qu'on peut voir notamment sur le département de la Haute-Garonne. Il va falloir avancer ce sujet-là assez rapidement, travailler la partie urbanistique aussi, et être ferme, c'est mon engagement en tout cas, sur les valeurs de la laïcité. Voilà. Mais il faut travailler sur plusieurs bandes et pas uniquement axer la réflexion sur la même si encore une fois le phénomène d'équité il n'est pas négligé sur la communauté musulmane, parce que il faudra travailler sur plusieurs leviers pour pouvoir répondre aussi à des difficultés à caractère social.
J'ai l'impression en vous écoutant que l'aspect association islamiste qui se greffe, ça, c'est quelque chose qui viendrait surinfecter une plaie qui serait déjà ouverte. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Pour connaître un petit peu ces quartiers populaires, on a quand même plus de gens victimes
dans ces quartiers. C'est entre les agresseurs et les agressés, ce sont tous des gens issus de l'immigration, des enfants de gens issus de l'immigration. Alors Patrick Coste, on en est aux solutions qu'on peut envisager et qu'est-ce qu'on attend aussi du gouvernement, de ceux qui nous gouvernent face à cette situation. On ne peut plus aujourd'hui, je pense, faire l'autruche parce que des histoires, je pense qu'on n'est plus dans le fait divers, il y a vraiment un fait de société quand même derrière.
Y compris pour animer le débat de façon contradictoire, Je crois que mettre la focale sur la question de l'immigration par rapport à cette question de la violence, c'est pas faux. Hein, y a bien une dimension qui se joue à ce niveau-là. Mais c'est quand même pas, ça ne donne pas toute l'amplitude de cette question de la violence. Dans les établissements scolaires, on a beaucoup parlé ces derniers temps des harcèlements. Le harcèlement, ce n'est pas le monopole de l'immigration. Hein. Donc, il y a une violence endémique qui concerne tous les milieux, y compris dans les beaux quartiers. Et donc, par conséquent, politiser le problème de la violence sur ce qu'elle a de plus aigu par les phénomènes communautaristes, je crois que c'est se voiler aussi la face par rapport au phénomène qui est un phénomène chronique par rapport à cette question de la violence qui est en train de s'amplifier. Hein. Les mineurs qui deviennent violents, c'est pas que les petits immigrés, hein, c'est aussi avec des phénomènes plus contingents ou plus anecdotiques dans les actes, mais qui pour autant est quelque chose qui est en train de se développer. Donc, bien sûr, la question sociale a des raisons, mais je pense, pour moi, ça va être la ligne de mon point de vue. On a un problème de désymbolisation de l'autorité. On peut faire l'analyse de type social et, par un certain nombre de d'entrées, bien sûr. La drogue, les familles, les réseaux sociaux, enfin, ce sont les thématiques habituelles. Mais quoi qu'il en soit, ce problème qui est au noyau de la violence par rapport à l'autorité, il faut en faire le diagnostic en tant que tel pour qu'on ait les réponses qui soient adaptées par rapport à ça. Je ne suis pas sûr, par ailleurs, pour apporter la contradiction, que la réponse ne vienne que du politique. Je pense qu'il y a une reconstruction à faire du rapport de l'autorité par rapport à la jeunesse. Et cette reconstruction, ce n'est pas simplement que des décisions qui peuvent se prendre au niveau de l'État, au niveau des réponses de la justice, de l'organisation globale. Au moment où on parlera des réponses, j'apporterai les miennes.
Mais on peut en parler tout de suite, là, ouais. Parce que le temps passe. Hein, donc il faut y aller maintenant pour que tout le monde puisse s'exprimer.
Au niveau de l'immigration, quoi qu'il en soit, de toute façon, les immigrés sont là. Bon. Et
ils sont français, la
plupart. Et cette immigration et ces flux migratoires ne s'arrêteront pas. On sait très bien qu'il va y avoir des migrations liées au niveau des problèmes du climat. Il va y avoir des migrations économiques qui vont être y compris nécessaires que l'on va appeler. Le patron du CNPF indiquait qu'il allait falloir 4 millions d'ouvriers immigrés pour tenir les enjeux économiques. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir faire avec. Alors, admettons qu'il y ait des problèmes de culture et de divergence.
Alors, comment fait-on entre avec les communautés. Ça, alors, dans la question.
Et donc, je pense qu'également, au niveau des familles, les décompositions des familles et des rapports à l'autorité, c'est un processus que l'on ne peut pas changer d'un claquement de doigts par rapport au comportement des parents. Alors, moi je vais indiquer une alternative qui peut se jouer et se construire au sein de l'école. Dans l'état actuel des choses, quand on est dans une relation, c'est du pratico-pratique. Hein, d'un enseignant avec 30 élèves, on ne peut pas construire un rapport d'autorité. On est dans une situation là en ce moment où pour reconstruire un rapport de transfert entre le maître et les élèves, il y a une absolue nécessité de réduire les effectifs, mais de façon considérable. Il y a une nécessité pour que cette autorité se reconstruise, que le maître soit en situation d'intervention sur les langages quotidiens ou les cultures qui sont différentes. Il y a une nécessité pour reconstruire l'autorité de se retrouver en situation d'interposition entre les élèves et la position du maître, de telle façon à passer des langages experts, mais dans cette dialectique entre l'enfant et le maître. Ça, ce sont des compositions de communautés qui peuvent se faire autour d'une autorité qui se reconstruit. Donc il y faut ces situations-là.
Et il faut les moyens.
Et il y faut les moyens. Je pourrais en parler hein, éventuellement de les présenter. Mais si on n'a pas ces situations de reconstruction du rapport à l'autorité, ce n'est pas simplement avec des décisions de justice qu'on va y arriver.
Mohamed Mafrik.
Alors, je vais insister, je vais barquebouter sur le principe politique, mais je vais argumenter. Un fait concret. On a actuellement, sur les sondages des élections européennes, un RN qui est à 32%. Un RN qui refuse de débattre, qui n'a pas envie, qui sait que, bon, voilà, sans débattre, voilà. Et moi, quand je parle du politique, je parle de la vision nationale, locale aussi, sur des sujets qu'on a complètement abandonnés. Vous parliez d'autorité tout à l'heure. Le mot autorité, alors maintenant, il commence à revenir au galop avec ces faits divers qui se cumulent. On voit maintenant tout le monde qui commence à se réveiller un petit peu. On agite un petit peu. Sauf que maintenant, le mot autorité, le mot respect, ces sujets-là, il va bien falloir quand même, on est dans une démocratie, et après, tout se structure. Là où je vous rejoins, c'est que ensuite, les partenaires institutionnels, les organisations paritaires, etc., vont se saisir un petit peu de ce discours-là. Mais le discours politique, au sens noble du terme, doit envoyer un message fort sur ce sujet-là. Ce n'est pas le cas jusqu'à il y a très peu de temps. Hein. On a d'un côté jusqu'au même drapeau bleu-blanc-rouge qui devenait presque la propriété exclusive du RN. Sauf pour les mouvements sportifs, lorsqu'on était champion d'Europe ou champion du monde. Voilà. Mais au nom de quoi? Le mot autorité, le mot sécurité n'appartenait qu'à l'extrême droite. Au nom de quoi? Ce sujet-là, il doit appartenir, excusez-moi, aux valeurs de la République, même à gauche. Qui est victime de problèmes d'insécurité? Qui est victime de problèmes de violence? Les premières lignes sont les gens qui habitent, les populations qui vivent dans les quartiers populaires. Donc c'est pour ça que ce discours politique-là, qu'on entend peu, pas assez de façon forte. On a quelques personnalités politiques, là, qui, à gauche ou à droite, qui l'expriment de temps en temps, mais pas suffisamment. Et je pense qu'il faut muscler ce discours-là pour qu'on ait une vision, une perspective sur ce sujet et qu'on puisse travailler sur ces thèmes-là. Parce que là, pour l'instant, encore une fois, je répète, on a quand même un Jordan Bardella qui, lui, refuse de débattre parce qu'il n'en a pas envie, parce qu'il estime que, tout simplement, s'il n'en a pas envie, c'est parce que, tout simplement, il n'a pas une offre politique en face qui lui permet de s'inquiéter. Voilà.
Ça fait brillant. C'est les réponses.
Alors, dire simplement qu'il y a eu, et ça c'est une évidence, une instrumentalisation politique de la question de l'immigration depuis 40 ans par le Front National, devenu Rassemblement National, et par la gauche qui utilisait ça pour mettre la droite dans une espèce de système casse-noisette. Et ça a été la stratégie de Mitterrandienne, on le sait.
Faut dire le nom.
pour essayer de casser la droite parlementaire. Pendant des années, ça a assez bien marché.
Ah bah, ça
a assez bien marché. En tout cas, ça a fragilisé le système politique français pendant longtemps.
Résultat d'aujourd'hui.
Mais le résultat, ça a été de neutraliser toute discussion sérieuse sur la question de l'immigration et sur les conditions dans lesquelles on pouvait effectivement définir une politique, et j'utilise le terme sciemment, je vais y revenir, d'assimilation. Le résultat, c'est que depuis 40 ans, si on parle négativement de l'immigration, on est raciste. Et si on est de gauche, on en parle comme étant un enrichissement. Les deux sont évidemment faux. Le phénomène migratoire, c'est un phénomène historique. Moi, je suis d'origine bretonne. Les Bretons ont été les premiers immigrés dans le Royaume de France. Hein. La Goutte d'Or est un quartier historiquement qui était un quartier breton. Et les Bretons étaient à l'époque ce que peuvent être les Maghrébins dans les années 80. C'est-à-dire des espèces de gens qui viennent du tiers-monde. Dans
et
la
qui
société.
Parlait un baragouin.
Et qui baragouinait. Voilà, alors, pour l'anecdote, qu'est-ce que ça veut dire baragouine? Pourquoi le terme baragouiné est né? Parce que c'est baragouine, c'est le pain et le vin, d'où le terme. Ouais. Qu'est-ce qui baragouine celui-ci?
Baragouine, bon. On comprend rien.
Mais en tout cas, ça a été instrumentalisé. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas su aborder simplement comme ça doit l'être. Parce que l'immigration, c'est des populations. C'est des gens qui, dans les quartiers, ont envie de vivre tranquillement. Ils n'ont pas envie de vivre dans une espèce de cité de la peur en permanence. Et cette incapacité que nous avons eue à parler de ce sujet a fait qu'effectivement, il a été un terreau extrêmement fertile pour le Rassemblement National. Il a totalement décrédibilisé à droite parce qu'on a été complètement bloqués sur ce sujet. Oui. Alors, effectivement, la question qui nous occupe, et malgré ces trois événements de la semaine qui sont dans la sphère de la population immigrée, le phénomène est bien plus large. La question de l'autorité, on peut y répondre effectivement par des constructions, comme ça vient d'être dit par Patrick Coste. Le problème, c'est que le rétablissement de l'autorité, on en parle depuis 40 ans quand même. On a tout essayé, absolument tout. La politique de la ville, elle ne date pas d'il y a 10 ans. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui ont été injectés pour reconstruire le cadre de vie, comme si le cadre de vie suffisait oui. à régler ça. Et la situation n'a fait que se dégrader, de tout point de vue. Il n'y a aucun segment sur lequel la question de l'autorité ayant été mise en cause et des actions ayant été menées qui a abouti à une amélioration de la situation. Aucun. Et le contre-exemple, c'est celui que Mohamed Mafri a évoqué tout à l'heure. Lorsque, à la dernière rentrée scolaire, Gabriel Attal, prenant ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale, traite la question de la baïa. Alors, ça a choqué beaucoup de gens, hein, avec une brutalité, une fermeté, diront d'autres, extrêmement claire. Et moi, je crois que la question de l'autorité, ça ne se négocie pas. L'autorité, ce n'est pas un contrat. L'autorité, ce n'est pas le contrat social. Ça, ce n'est pas vrai. L'autorité, c'est la prérogative de puissance publique. C'est comme les pouvoirs régaliens. C'est ce qui fonde un État. Sans cet État, il n'y a pas de nation et il ne peut pas y avoir une vie en société. Et donc, moi, je pense que là où nous en sommes arrivés, si nous ne sommes pas capables de réaffirmer de manière péremptoire, unilatérale, l'autorité, nous ne parviendrons pas à des améliorations. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu des mesures qui doivent être des mesures radicales. Des élèves harcèlent d'autres élèves, ils doivent être sanctionnés, mais pas sanctionnés avec un avertissement, une exclusion de 3 jours. Après tout, c'est son problème. Et c'est le problème de ses parents. Si son attitude n'est pas acceptable, il doit être éjecté de l'établissement. Si une famille met le bazar dans une cité, elle doit être expulsée. Ah, c'est la faute de l'enfant, c'est pas la faute des parents. C'est pas la faute des autres enfants. Mais si nous ne rétablissons pas des règles simples, compréhensibles par tous, qui responsabilisent collectivement, eh bien, nous ne parviendrons pas. Toutes les autres solutions, malheureusement, ont échoué. Et le souvenir que nous avons de l'autorité, c'est une autorité arbitraire. C'est celle où on sait bien pourquoi on prend sur la tête. On trouve quand même que c'est un peu exagéré, mais au final, on trouve que c'est pas tout à fait anormal. Eh bien, moi, je crois que cette autorité qui tombe du haut du ciel, il faut la rétablir et il faut qu'elle frappe, et qu'elle frappe fort.
Patrick Coste, très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, d'abord, enfin, s'il y a une destruction du rapport à l'autorité, la responsabilité en revient historiquement aux adultes dans tout un processus. Et donc, la réponse d'autorité sur, par exemple, les mineurs par des sanctions, c'est quand même le retour du bâton d'une responsabilité qui, à l'origine, est celle des adultes. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une définition de l'autorité fondée dans les théories de l'État qui est quelque peu spéculatif par rapport à la nécessité, justement, de reconstruire le rapport à l'autorité. L'autorité, c'est pas le bras régalien de l'État. C'est une quotidienneté et ça se joue dans des micro-situations tous les jours. Et c'est comme ça que l'autorité se construit. Donc c'est effectivement un constructivisme de proximité. C'est la raison pour laquelle je suis tenté de penser que ce qui n'a pas été envisagé en termes de rapport à l'autorité de telle manière à le reconstruire, c'est justement ces situations de communauté de proximité où l'adulte intervient de telle manière à quasiment, il a des comportements réparateurs, thérapeutiques, par rapport à quelque chose qui est devenu une pathologie de la désymbolisation du rapport à l'autorité.
On va mettre ce sujet en suspens pour aujourd'hui. On pourra en parler évidemment pendant des heures. De toute façon, il y a à craindre malheureusement qu'il revienne vite dans les discussions. Petite pause musicale d'une vingtaine de secondes avant notre deuxième débat sur un autre sujet d'actualité. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour en direct en compagnie de mes trois invités, Sacha Briand, Patrick Coste et Mohamed Mafri, pour un second débat qui nous ramène à des considérations plus politico-économiques. Après l'annonce il y a quelques semaines que le déficit public de la France s'élevait à 5,5% du PIB en 2023, Emmanuel Macron a rejeté lundi, et ce devant les cadres de sa majorité, l'idée d'un budget rectificatif pour 2024. Alors un budget rectifié, c'est une décision qui serait susceptible d'ouvrir la voie à une motion de censure de l'opposition LR à l'Assemblée. Le chef de l'État a précisé qu'il n'en voyait pas l'intérêt et que le gouvernement, je le cite, doit faire les choses avec sérieux pour tenir ses objectifs. Et il a ajouté « Nous n'avons pas un problème de dépenses excessives, mais un problème de moindres recettes. » Il s'est référé pour ça au manque à gagner fiscal dû à une croissance plus faible que prévu. Est-ce que vous donnez raison au président de la République dans son refus d'envisager un budget rectificatif en 2024? Et êtes-vous d'accord avec lui lorsqu'il dit que le problème ne réside pas dans les dépenses excessives de l'État, mais plutôt dans son incapacité à générer plus de recettes? Qu'en pense Sacha Briand, l'adjoint maire de Toulouse, délégué aux finances?
Mais j'en pense que le président de la République pourrait avoir raison si, dans les 30 dernières années, on avait eu un taux de croissance supérieur à celui qui est aujourd'hui constaté. Or, depuis 30 ans, on a un taux de croissance parmi les plus faibles de la zone euro. Sauf l'exception d'il y a deux ans, où l'inflation a généré un taux de croissance significatif, on n'a jamais réussi à améliorer cette situation. La réalité, c'est que l'explication la plus plausible, même s'il y en a d'autres, tient au fait que la France est également l'un des pays européens, sinon le pays européen. Il y a quelques années, on parlait des pays du Nord qui avaient un niveau de dépenses publiques en PIB qui était supérieur à la France. Eux-mêmes ont été amenés à réduire leurs dépenses publiques. Et aujourd'hui, la France, je n'ai pas le chiffre en tête, mais doit être dans les deux ou trois premiers.
On est champion du monde
en termes de dépenses publiques. Alors je parle de la zone euro parce qu'il y a une comparaison, une comparabilité possible. Voilà, élargir au monde entier, ce serait peut-être un peu fallacieux. Mais en tout cas, dans la zone euro où on a une société basée sur des valeurs à peu près comparables, des systèmes économiques et politiques à peu près comparables, des systèmes sociaux avec des différences, quand même des valeurs comparables, la France est dans une situation où la dépense publique est excessive. Donc, il y a un moment où il va falloir s'attaquer à ce sujet. D'ailleurs, ça fait quand même écho à ce que disait Patrick Coste tout à l'heure en expliquant qu'il fallait mettre un professeur pour 10 élèves ou quelque chose comme ça, mais c'est pour amener la contradiction. On a aujourd'hui un système éducatif, quand on le compare aux autres pays européens, qui est moins performant, qui se dégrade manifestement sur des séries longues, alors que les effectifs globaux de l'éducation nationale ramenés aux élèves sont parmi les plus élevés de l'Europe. Donc on voit bien que ce n'est pas la question des effectifs globaux, mais il est vrai que la spécialité française, c'est que lorsqu'il y a un enseignant, il y a au moins deux personnes derrière pour assurer cette communauté. J'exagère un peu sur les chiffres, mais en tout cas, on a un vrai problème en France. C'est qu'on n'a pas assez de gens qui sont sur l'activité elle-même. On crée des règles et des structures et des infrastructures qui viennent gérer les structures et qui ensuite sont là pour créer des normes qui empêchent les gens de faire leur métier. Et tout ça est un système de sclérose totale. Et bien, pour faire le lien avec le sujet précédent, je pense que si nous ne parvenons pas à renverser la table complètement, si nous n'arrivons pas à remettre de l'ordre dans ce pays sur des choses simples, il n'y a pas besoin d'une administration pléthorique pour avoir des enseignants qui sont en capacité à faire leur travail. Ça permettra peut-être d'avoir de meilleures rémunérations pour les enseignants parce qu'il y a de la compétition. Et du coup, en ayant de meilleures rémunérations, ça permettra peut-être d'avoir de meilleurs enseignants.
Mohamed Mafri, vous aussi, vous êtes un élu. Hein. Ouais. Est-ce que c'est que gérer un budget? Alors, qu'est-ce que vous pensez de la sortie d'Emmanuel
Même
Macron
si c'est pas
Je ne veux pas entendre parler de budget rectificatif, on ne touche pas aux dépenses
telles qu'elles ont été prévues. Même si ce n'est pas ma délégation, c'est plus celle, en tout cas sur la ville de Toulouse, de M. Briand.
Lui, il est dépensier.
On compte quand même, fais attention. C'est plus presque, je veux dire, si on reprend le sujet, c'est plus une approche politico que financière. Je m'explique. On voit une démarche stratégique d'un élu, du responsable des élus des Républicains, et en tout cas Éric Ciotti, qui commence un petit peu un bras de fer, qui à terme, vous l'avez dit à l'introduction, va chercher la motion de censure. Voilà. Donc, maintenant, oui, bon, je ne vais pas reprendre mathématiquement ce qu'a exprimé M. Briand. C'est vrai qu'on n'a pas une croissance qui nous permet d'avoir non seulement des recettes, mais permet d'avoir des perspectives économiques positives. Il y a eu un choix aussi de cette majorité de baisser les impôts depuis 2017. Qui ne sont pas payants.
Oui, parce que pour augmenter les recettes...
Ils ne sont pas payants, tout fait, simplement, parce que si on prend la taxe sur l'impôt sur les sociétés ou la taxe d'habitation, l'effet souhaité n'est pas arrivé. Un effet de dépense, c'est plutôt un effet d'épargne, un petit peu qui s'est concrétisé par peut-être l'inquiétude de l'atmosphère, etc. Et peut-être le sujet précédent aussi, et d'autres sujets qui ne permettaient pas d'avoir une optique économique. Alors qu'on avait quand même un chiffre plutôt pas décevant au niveau de l'emploi, en tout cas. Voilà. Donc, tactiquement, maintenant, on voit un enjeu politique, plutôt. Et d'ailleurs qui se dessine, hein, puisque l'appel du pied de M. Ciotti, quand même, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On a vu la réaction de certains cadres du Rassemblement national, voire même de certaines LFI qui ne seraient pas défavorables à cette motion de censure, et donc faire tomber le gouvernement. À voir, mais bon, voilà. Mais après, sur l'aspect... arithmétique, le fait d'avoir baissé les impôts n'a pas, et de ne pas avoir aussi peut-être augmenté pour certaines thématiques en tout cas, n'a pas été concluant. Dernier point, sur l'aspect budgétaire quand même, à un moment ou un autre, c'est vrai qu'il va falloir aussi fixer des orientations et des priorités politiques.
Ah ben oui.
On a cité tout à l'heure l'éducation, il va falloir aussi trouver aussi une réflexion politique sur ce sujet-là pour non seulement être... meilleur, mais tout en faisant des économies.
Mais si on suit ce que dit Sacha Briand, s'il faut faire des économies, il faudra savoir où, quand même.
Oui.
Bon,
Patrick Coste. Ça, c'est une volonté politique. Ce sont des priorités.
Patrick Coste.
Bon, d'abord, il faut remarquer quand même qu'il y avait un budget rectificatif qui était prévu par Bruno Le Maire.
Oui, qui 10 était, milliards d'économies. Oui,
qui était très élaboré, avec une première vague à 10 milliards.
Il s'est fait ramasser.
Il était projeté d'ailleurs une économie ensuite complémentaire l'année d'après, en 2025, de 20 milliards. Et qui était une décision d'un virage à prendre par rapport à... une dépense qui est dispendieuse de l'État. Et donc, ça, c'était un travail qui a été fait. Or, ce qui s'est passé, quand même, c'est que, de façon tout à fait incongrue, le président de la République est intervenu au milieu du guet de ce projet, en indiquant que ça n'est pas un problème de dépense. C'est un problème de recette qui a été insuffisante dans un contexte où... Le premier partenaire économique est l'Allemagne, est en situation de récession. La Chine est en situation de déflation. Donc, évidemment, les balances commerciales sont mises en situation difficile. Et une croissance avec des atermoiements dans les informations, puisque les organismes d'analyse, le FMI, la Banque européenne, etc., prévoyaient plutôt moins d'1%. Alors que le budget a été construit à 1,4, ce qui était évidemment... alors, c'est interprété comme étant un camouflet au moment de la présentation du budget. Je ne suis pas certain que ce soit véritablement ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Mais on se retrouve, au bout du compte, avec une décision du président de la République qui, devant des menaces politiques évidentes, recule devant cette décision de bifurquer par rapport à cette question du budget. Et donc, quelle est la perspective ? Réponse, rien. Alors, juste, je voudrais quand même, par rapport à la question des dépenses, apporter quelques nuances par rapport à ce qui a été dit. On sait qu'on a les dépenses publiques, on est champion du monde en la matière, avec des fiscalités où on est premier sur toute la planète par rapport à ça, mais sur les dépenses publiques. Je voudrais quand même apporter une nuance. Il y a effectivement en France tout un fonctionnariat qui a proliféré, qui sont ce que j'appelle, moi, les fonctionnaires sans main. c'est-à-dire qui interviennent au niveau d'une sorte de superstructure de l'État. 70 000 contrôleurs au niveau des paysans dans ce ministère. Et dans l'éducation nationale, des professeurs allemands qui sont beaucoup plus payés, alors même qu'en France, ils le sont beaucoup moins, parce qu'il y a effectivement toute une partie des fonctionnaires qui sont de l'administration, qui sont du fonctionnement des ministères. Et donc là, effectivement, en termes de dépenses publiques, il y a la superposition des collectivités, qui a évidemment, c'est 20% de la dépense publique également. Et donc, il y a bien, du côté du fonctionnariat, une sorte de cancérisation d'une partie. Mais attention, c'est là que j'apporte la nuance. Il convient aussi de savoir défendre le service public dans un certain nombre de ces dérives qui sont en train de l'entamer. Je pense aux infirmières, 10% d'entre elles qui ont quitté les hôpitaux publics, les problèmes d'attractivité des enseignants, les problèmes de recrutement des magistrats qui ne permettent pas d'assurer une justice de qualité.
Et des professeurs, voilà, des écoles ou des professeurs de collèges et lycées. Et
problème d'attractivité. En 2022, il y a eu 25 millions d'heures qui n'ont pas été assurées faute de remplaçants, et cette année on est à 15 millions d'heures. Donc il y a un trou dans la raquette par rapport, à la dépense publique concernant au moins cette partie-là. Donc pour ma part, je ferai malgré tout une partition sur cette question de la fonction publique en repérant ce qui dysfonctionne, mais ce qui convient de préserver. Ensuite, si je terminerai là-dessus, si le président ne fait rien par rapport à ce qui est en train de filer du côté du déficit et de la dette, il faudrait une croissance à un 5, à un 2, de telle manière à rééquilibrer partiellement.
140 milliards de déficit sur 450 milliards de budget.
Ce qui, de toute façon, par rapport aux prévisions que l'on peut faire, sera au moins en 2025, tout sauf ça. Parce que on pourrait faire la démonstration que l'on risque en 2025 une croissance à 0,5, ce qui ne ferait que accentuer la problématique.
Juste une remarque qui est importante, c'est que voilà, vous avez entendu ces derniers jours, on se demande presque pourquoi, le ministre de la fonction publique qui parle du licenciement de la fonction publique, le ministre de l'économie qui annonce des choses. Pourquoi tout ça, toute cette agitation? C'est simplement que dans quelques semaines, les agences de notation vont réviser la notation de la France. Souvenez-vous du traumatisme de la perte du triple A.
Oui.
Mais là, le problème, c'est qu'on en vient à un niveau de dégradation de la notation de l'État, alors qu'il n'est pas simplement une question de notation, c'est une question de coût de ressources de la dette. Avec 3 000 milliards de dette, avoir une dégradation de la note, c'est avoir un impact extrêmement négatif qui génère des recettes, des dépenses supplémentaires et qui touchent à la question de l'image de l'État sur la scène européenne et internationale. Et donc, il est urgent que des mesures soient prises, mais force est de constater que cette urgence, elle existe depuis plus de 40 ans maintenant, que les gouvernements parlent et qu'ils tentent parfois d'agir, mais que le résultat est absolument désastreux parce qu'effectivement, il n'y a pas de courage politique et il n'y a pas de volonté de trouver des solutions objectives à ces situations.
Mohamed Mafri, alors ce que mettait en évidence Patrick Cosse, c'est qu'après il y a des choix politiques.
Oui.
Faits.
Voilà. C'est tout le sujet.
Fait-on les coupes. Bon,
c'est tout le sujet.
Parce qu'il apparaît quand même évident qu'il va falloir en faire.
Oui.
C'est qu'à dire, on ne va pas y couper.
Non, c'est clair. Ouais. Il y a une approche. On a cité les trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, territoriale et la fonction publique hospitalière. Je reviens moi sur les priorités. D'abord, les priorités, le soin, la santé. Pour moi, reste quand même une priorité. On a cité l'éducation. Et je rajouterai derrière, pas très très loin, puisque quand même c'est une énorme demande des Français, la partie sur la sécurité. Quand on a dit ça, et si on essaie d'être un peu pragmatique, on peut aussi analyser sur ces trois fonctions publiques-là, voir un petit peu lesquelles sont comment recentrer ces trois fonctions publiques sur leurs compétences. Et je pense notamment aux collectivités territoriales, ou peut-être aussi cette réflexion-là, alors j'en appelle, alors je déteste ce mot, il y a des assises sur ce sujet-là, mais voir un petit peu où ces collectivités, les intercos, les villes, régions et autres, ont des compétences obligatoires. Oui. Et devrait se concentrer uniquement sur les compétences obligatoires. Voilà, ces sujets-là aussi, peut-être qu'il faudra aborder un petit peu aussi, voir un petit peu quelle collectivité dépasse son périmètre et développe des sujets peut-être qui ne sont pas de sa compétence. Et ce sujet-là aussi, c'est des sujets qu'il faudra peut-être approfondir.
Donc Mohamed Amafri, qui tout à l'heure critiquait les baisses d'impôts, souhaite réduire les dépenses des collectivités locales pour réduire les impôts. Non, puisque
je souhaite les optimiser, M. Brian, c'est pas pareil.
Le budget des collectivités est équilibré, donc ne participe pas à la détermination du déficit public. Mmh. Or, le problème fondamental de l'État aujourd'hui, c'est un problème de déficit, c'est-à-dire d'augmentation continue de la dette dans une spirale infernale qui est liée à cet écart. Mmh. Donc attention quand même à ces questions. On peut et on doit améliorer le fonctionnement des collectivités locales pour prioriser, mais ça c'est un choix. Mais par contre, sur la question du déficit, ce n'est pas celui des collectivités locales.
Ce 150e numéro de la Mêlée de l'Info est terminé. Merci à vous trois d'avoir été les invités. Merci à Coraline qui a réalisé cette émission. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end.